Les Déambulations de Blandine, un podcast pour déambuler librement entre art et création. Une réalisation de monstudio.tv.
Troisième épisode sur le premier fond. Là, c'est un sujet qui est un sujet pour une autre raison et sur d'autres œuvres qui peuvent être d'actualité. Ce sont les saisies de guerre. Notre ami Bonaparte est un grand guerrier, a une vision extrêmement large de ce qu'est la France. Après s'être fait installer, il va combattre l'Autriche. L'Autriche est un peu partout, est aussi bien au nord qu'au sud de la France, et il va envahir et la Belgique et une partie de l'Italie. Comme tout chef de guerre, quand on est en guerre, après, il y a un butin. Et alors, tout particulièrement sur l'Italie, le butin est absolument énorme. Il va revenir, ce sont des convois entiers qu'il envoie en France. Alors, pour plusieurs raisons, c'est vrai que à cette période-là, l'Italie, ce n'est pas un pays, hein, ce sont des duchés, ça n'est pas dans une grande forme politique, et donc il peut se permettre d'aller saisir comme ça toute une série de tableaux. Et puis, il a toujours sa grande idée de faire au Muséum central, le grand musée, entre guillemets, d'Europe. Bon, on n'ira pas à l'Angleterre, mais on sait que de toute façon, c'est aujourd'hui pas forcément en Europe. Et donc, il y a, en 1794, une instruction qui est très précise, qui est faite par la Convention de l'an 2, qui dit « Il faut inventorier, conserver dans toute l'étendue de la République tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences et à l'enseignement. » Le moins qu'on puisse dire, c'est que Bonaparte va prendre ça au pied de la lettre. Et donc, c'est comme ça. Il y a deux campagnes. Il y a une grande campagne dans les Flandres et puis il y a la grande campagne en Italie. Première campagne, c'est dans les Flandres en 94, la deuxième en 97 en Italie. Mais on va commencer par la campagne italienne parce que j'ai choisi de vous présenter deux très beaux tondeaux qui sont toujours en salle, qui sont dus au pinceau de Pérugin. Pérugin est le professeur de Raphaël. Il est moins connu que Raphaël, mais c'est tout de même un de nos très grands peintres. Et Bonaparte rapporte d'Italie ces deux grands tondeaux qui appartiennent en fait à un ensemble beaucoup plus large, puisque c'était un retable complet. Et ces deux tondeaux qui sont le prophète David et le prophète Isaïe se trouvaient en haut de ce grand retable. Et ce grand retable arrive, alors c'est quand même vraiment un petit peu gonflé de sa part, parce que tout est, et c'est des peintures sur bois. On sait que le bois a du mal, les peintures sur bois, c'est extrêmement fragile, mais non, tout ça vient dans des chariots jusque dans les réserves du Louvre. Et il y a aussi d'autres parties de ce grand retable. Il faut, si on veut reconstituer, aller au Musée des Beaux-Arts de Lyon, où il y en a deux, des éléments de ce retable, et au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Bon, ça a été dispersé. Aujourd'hui, je pense qu'on ne ferait plus ça. Je pense qu'on réunirait l'ensemble de ces tableaux. Mais le Musée des Beaux-Arts de Nantes a un autre Pérugin dont on parlera plus tard. Et donc, ça permet, malgré tout, de voir des œuvres assez monumentales de ce peintre, de l'extrême fin du 15e et du début du 16e siècle. Les deux prophètes, aux deux phylactères qu'ils tiennent dans les mains, et c'est ainsi qu'on peut identifier David, qui cite un verset « Seigneur, qu'il est puissant, ton nom par toute la terre », et celui d'Isaïe « Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds ». Donc ça, c'est parmi de très très nombreuses œuvres, parce qu'il faut quand même dire que le gros fonds italien du Louvre vient quand même en partie des saisies de nos armées, ce sont les troupes françaises, et donc on passe ensuite aux saisies, là aussi, souvent religieuses quand même, il faut le dire, dans les Flandres. Bonaparte se promène dans une grande partie des Flandres assez largement, puisqu'il va prendre à Ypres un très grand tableau, qui est un tableau d'un peintre qui s'appelle Theodor Boyermans. Et c'est ce grand tableau, un sujet là aussi compliqué, mais ça vient d'un couvent de jésuites, qui est le vœu de Saint-Louis de Gonzague. Alors ce grand tableau fait je ne sais combien de mètres, il doit faire 5 mètres de long à peu près. Il est en général présenté en permanence dans nos collections. Theodor Boyermans est à la suite de Rubens, mais plus tard, puisque lui, c'est vraiment la deuxième partie du XVIIe siècle. On va parler de Rubens d'abord. Rubens, ce très très grand peintre baroque, qui a une carrière absolument internationale. Il peint aussi bien en Italie que pour l'Espagne, que pour le roi de France, que bien sûr pour son pays. Il a un énorme atelier, une production absolument énorme. Enfin, vraiment, pour lui, rien ne l'arrête. Si vous avez le temps, vous allez au Louvre et vous verrez toute la série autour de Marie de Médicis et d'Henri IV. Enfin, il y a une quinzaine de tableaux, tous qui font plus de 3 mètres par 2. Et une production absolument énorme. Mais c'était intéressant d'avoir un Rubens à Nantes, très loin des Flandres tout de même. Et donc, pour les Nantais, c'était aussi une façon de découvrir cet art qui n'est pas l'art baroque de Vouet, qui est très français, qui est un art baroque très flamand. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une facilité extraordinaire de pinceau. On pose les couches, on pose les couleurs très rapidement. Si vous approchez, on a presque l'impression d'un tableau impressionniste. Donc notre Rubens, c'est très intéressant pour Nantes de pouvoir vraiment voir Rubens de près, parce que approchez-vous du tableau, regardez la façon dont la peinture est posée, et vous allez voir la rapidité de la touche, vous allez voir l'énergie qu'il y a dans cette touche. Il dessine autant qu'il peint avec son pinceau. Ce tableau arrive donc à Nantes, il y est présenté, il se trouve que il venait de la cathédrale de Tournai. Il y avait un grand autel sur lequel il y avait recto verso, deux tableaux. Côté recto, donc côté des fidèles, c'était la délivrance des âmes par le purgatoire, une espèce de grande peinture où les corps s'enchevêtrent les uns les autres. C'est une chose tout à fait étonnante. Et puis de l'autre côté, face à une chapelle qui était à l'arrière de l'autel principal, ce Judas Maccabée priant pour les morts. La cathédrale de Tournai est restauré. Le tableau qui est encore à Tournai, qui est resté, est restauré. La municipalité de Tournai, enfin les échevins de Tournai restaurent leur cathédrale, et le premier échevin se dit que ce serait très bien si le tableau pris par les armées napoléoniennes revenait, déposé à Nantes, revenait à Tournai. Il se trouve que au moment, à la fin, à l'extrême fin du Premier Empire, beaucoup de tableaux pris par les armées napoléoniennes ont été rendues. Les Italiens ont récupéré une partie de leur collection, les Flamands, etc. Énormément. Mais les tableaux déposés en région, POC, dans les villes de province, n'ont pas été récupérés parce que l'ensemble de l'Europe se disait qu'il ne fallait peut-être pas trop traumatiser ces pauvres Français qui avaient déjà eu la Révolution, qui avaient eu leur empire, qui venaient de tout perdre. On laissait les choses tranquillement en région. Comme ça que le tableau est resté, sans que personne ne le demande. Mais nous ne sommes plus à cette époque. Et vous avez tous sûrement entendu parler des restitutions, en particulier à propos des collections venant d'Afrique. Donc voilà le premier échevin qui se dit qu'il aimerait bien récupérer ce tableau. Finalement, c'est un diptyque sans être un diptyque, puisqu'ils étaient dos à dos, on ne pouvait pas les voir ensemble. Mais bon. Et il demande la restitution sans passer par les voies normal, puisque c'est d'état à état que ce genre de choses se font. Autre raison qui est assez importante, vous vous souvenez peut-être quand je vous ai cité toutes les villes pour lesquelles Bonaparte avait décidé qu'il fallait qu'il y avait un musée, il y avait trois villes étrangères aujourd'hui, mais qui à l'époque faisaient partie de, entre guillemets, l'Empire français, c'était Bruxelles, Genève, Mayence. Donc Bruxelles a bénéficié de dépôts qu'ils ont gardés. Donc peut-être que dans ces cas-là, les choses devenaient compliquées. Est-ce que Bruxelles allait renvoyer ce qui leur avait été envoyé? Bref, l'histoire à ce jour est avec trois petits points de suspension, mais ça reste un sujet très compliqué. Que doit-on faire de toutes ces saisies révolutionnaires qui ont aujourd'hui plus de deux siècles, qui en général font partie des fonds du musée dans lequel ils ont été déposés? Le musée s'est souvent développé autour de ces fonds. Le musée des Beaux-Arts de Nantes a acheté autour de ces fonds pour à la fois compléter ses peintures. Donc doit-on les restituer ou doit-on continuer à les présenter en n'oubliant pas dire que ce sont des saisies révolutionnaires comme les collections royales, comme les collections des biens d'église. En général, c'est toujours dit sur ce qu'on appelle le cartel de l'œuvre. Je suis sûre, certaine même, que le tableau de Rubens à Nantes a du sens dans l'histoire telle qu'elle est aujourd'hui du Musée des Beaux-Arts de Nantes. C'est un morceau de son histoire et en même temps, ça permet aux Nantais de découvrir ce qu'est la peinture flamande du XVIIe, sachant que nous sommes un petit peu loin des Flandres. Voilà. C'est pas moi qui déciderai s'il faut le rendre ou pas. S'il faut le rendre, il faut le rendre. Puis voilà. Non. Mais c'est vrai que quand on parle d'Europe, c'est aussi bien de connaître ce qui vient de nos, je vais dire, de nos voisins les plus proches et comment, Dieu sait si Rubens n'a pas en France hein, en plus, comment à un moment ça a pu influencer. N'oublions pas qu'il y a eu une querelle extrêmement importante entre Poussin et Rubens sur les coloristes et les tenants de la couleur et les tenants du dessin. Les ruménistes, les tenants de la couleur s'appuyaient sur Rubens. Donc moi, pour moi, historienne d'art, je suis ravie d'avoir conservé ce beau Rubens, même si son sujet est effectivement tout petit peu ardu.